voilà, il me met une prescription pour que je puisse faire le test. Et comme il faisait un peu tard, c'était vers 18h comme ça, il fallait repasser le lendemain pour faire le test en tant que tel. Donc c'est le lendemain que j'ai pu faire le test. Malheureusement, il m'a fallu attendre encore très longtemps pour avoir les résultats.
Combien de temps vous avez attendu avant d'avoir les résultats?
Plus d'une semaine, disons 8 jours, parce que j'ai fait le test un mardi et ce n'est que le mercredi suivant que j'ai pu avoir les résultats. Après avoir fait des pieds et des mains et surtout après avoir, excusez-moi du terme, engueulé un tout petit peu le médecin qui était supposé m'appeler, mais qui ne l'a pas fait.
Vous aviez donc décidé de l'appeler?
Moi, j'ai appelé le vendredi parce qu'il m'avait dit que, bah, écoutez, les tests, c'est dans 48, 72 heures maximum, vous avez les résultats. 72 heures après, j'ai pas eu les résultats, j'appelle. Il me dit, même ceux qui avaient fait avant vous n'ont pas reçu les résultats. Donc, appelez-moi le samedi. Le samedi, j'ai pas rappelé, en sachant que, généralement, ils travaillent pas les samedis.
Le samedi, vous n'appelez donc pas, vous appelez un autre jour. Et qu'est-ce qu'on vous dit?
J'appelle le mardi et pour la même réponse. Écoutez, les résultats ne sont pas sortis, mais j'étais obligé de lui dire, mais monsieur, écoutez, ça fait quand même plus de 10 jours que moi, je me suis, disons, auto-isolé, resté loin de la famille. J'ai une fille qui a moins de 2 mois que j'ai pas vue depuis une dizaine de jours. Là, il faut que je sache de quoi la situation retourne.
Que se passe-t-il alors?
C'est en ce moment que le médecin me demande de repasser le lendemain pour faire un test rapide. Ce que je fis, le lendemain, je suis retourné le voir. Dès que j'arrive, j'étais surpris de voir qu'il avait les résultats dans son ordinateur. Je lui donne mon nom, il tape, il me sort le résultat. Et puis comme réponse, monsieur, vous êtes positif. Et comme ça.
Vous a-t-on expliqué pourquoi les résultats n'étaient pas disponibles à la période où ils étaient censés l'être?
La raison qu'ils m'ont donnée, c'est que l'Institut Pasteur, qui est, à ma connaissance, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres structures, le seul qui pratique ces tests, était saturé, parce qu'on est dans une période où les cas flambent.
Au Sénégal,
donc,
oui.
À chaque fois, on revient. Voilà, on nous dit, bah, écoutez, l'Institut Pasteur est clairement débordé. C'est pourquoi il y a des retards dans les résultats. Donc, c'est la seule explication qui m'a été fournie.
Quand on vous a dit que vous aviez le virus, quelle était votre réaction?
Ma première réaction, c'est de dire Dieu merci. Tout d'abord, j'étais choqué par le fait de rester pendant une semaine sans avoir les résultats du test que j'avais fait. Imaginez si j'avais été quelque peu irresponsable et de me dire que, bah, écoutez, j'ai pas de résultats, je vais me mêler un peu aux gens, je vais rester au contact de ma famille. Là, en ce moment, imaginez ce qui aurait pu arriver. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais eu beaucoup de cas dans ma famille. J'ai 2 filles, une qui a 3 ans et demi, une qui n'a pas encore 2 mois, et mon épouse aussi, elle est là. Ma belle-mère, à qui je rends visite très souvent, elle a le diabète, elle a tout. Imaginez un peu si moi, j'avais continué à aller les voir, ce que ça aurait été.
On peut dire donc que vous étiez un peu soulagé par toutes ces mesures de précaution que vous aviez prises.
J'étais quelque part soulagé d'avoir pris cette décision qu'aujourd'hui je prends comme une décision qui a été très sage, de m'éloigner un peu des gens, d'éviter les contacts au maximum, surtout de rester seul dans mon appartement et de laisser la famille chez la belle-mère. C'est à partir de là que je me suis dit Dieu merci, j'ai pris les devants parce que au fond de moi-même, je me disais que ce mal que je ressentais, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Pour moi, c'était le Covid, j'étais convaincu et donc j'avais pris cette décision, mais j'étais quand même choqué par la procédure de devoir rester pendant une semaine pour avoir les résultats d'un test. Et je me dis combien de personnes sont dans la même situation que moi et qui aujourd'hui ont peut-être transmis le virus à d'autres dizaines de personnes, ainsi de suite, quoi.
Oui, les gens qui ne le savent pas ou alors qui ne peuvent pas faire autrement. Donc, c'est à partir du moment où vous étiez convaincu ou doutiez que vous avez le coronavirus que vous êtes éloigné de votre famille?
Effectivement, c'est à partir de ce moment. En tout cas, moi, dès que j'ai commencé à sentir une fatigue intense et puis un mal indescriptible, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais jamais ressenti un mal pareil. Donc je me suis dit non, là c'est pas normal. On est en période de Covid. Ça c'est pas une grippe. Donc le mieux à faire, c'était justement de prendre mes responsabilités et de m'éloigner un peu de ma famille et puis d'éviter les contacts au maximum pour ne pas vraiment être responsable. Parce que très souvent, dès le début de la crise, moi je faisais partie de ceux qui combattaient l'esprit, certains esprits, mauvais esprits, comme je les appelle souvent, qui tendaient à dire que ça c'est des blabla, y a pas c'est pas une maladie qui existe. Alors là, j'ai moi personnellement j'ai J'en ai la preuve. Donc, c'était pour moi l'occasion de faire justement ce post auquel vous faisiez allusion sur ma page Facebook et sur LinkedIn pour partager l'expérience que j'ai vécue et surtout pour sensibiliser les gens, pour leur dire que le coronavirus existe réellement et que c'est par notre sens de responsabilité qu'on peut peut-être sauver d'autres personnes de cette maladie.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Est-ce que vous avez une idée de comment vous avez pu attraper la maladie? Avez-vous fréquenté quelqu'un qui a aussi développé le coronavirus?
Malheureusement, non. Je n'ai aucune idée de comment j'ai chopé le virus. Et peut-être, je me dis, c'est dans les transports publics, hein. Ça doit être ça. Et voilà, parce que maintenant, lorsque vous entrez dans les transports publics, les mesures barrières ne sont pas respectées. Moi, depuis le début de la crise, j'avais l'habitude de porter mon masque tout le temps. Des fois, dès que j'entre dans un car, voilà, les gens vous regardent avec un regard bizarre, quoi. Lui, il continue à porter le masque, alors que dans les rues, personne pratiquement ne porte plus le masque. Donc, je pense que c'est peut-être de là que je l'ai chopé. Voilà. Mais j'ai pas souvenir d'avoir fréquenté quelqu'un qui avait en ce moment le Covid.
Ouais, parce que vous semblez être quelqu'un qui prend la maladie au sérieux et qui prend des précautions pour ne pas tomber malade. Vos observations sont aussi celles d'un auditeur qui a laissé sur la page Facebook un commentaire, Alphonse Mbouaki. Depuis la RDC, il est en train de se plaindre du fait que dans son pays, les Congolais n'observent plus les gestes barrières et on voit une négligence notoire des Kinois par rapport à ces mesures barrières. Et donc, il préconise une sensibilisation. Et vous dites aussi que vous faites partie des gens qui font la sensibilisation, se rendent compte que la maladie existe bel et bien. On veut savoir comment est-ce que vous procédez pour faire cette sensibilisation.
Effectivement, vous savez, dès le début de la maladie, et je pense que nous sommes les premiers à le faire, c'est des gens ressortissants de mon village. On avait créé une page WhatsApp, un groupe WhatsApp autant pour moi, où il y avait membres de ressortissants de notre village, où on passait les informations systématiquement concernant le Covid-19 avec des cotisations pour aider ceux qui sont au village et qui n'avaient pas les moyens de se payer, disons, le nécessaire pour le lavage des mains, des choses comme ça. Alors, la première chose que je faisais, c'était quoi? C'était de petites vidéos. Je sais que je suis journaliste et je suis très suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je faisais de petites vidéos de sensibilisation pour expliquer les gens. À l'époque, on ne maîtrisait déjà pas les rouages de cette maladie. Donc, tout ce qui nous tombait sur la main, d'après les experts, je prenais la peine de faire un bulletin quotidien, chaque jour, une minute, deux minutes maximum, où je faisais le résumé un peu de l'actualité concernant le Covid, en donnant les chiffres du jour sur le plan mondial, en Afrique et au Sénégal. En ce moment, j'étais au Congo, je travaillais encore pour Africa News, qui est la chaîne africaine d'Euronews que vous devez sûrement connaître. Alors, c'est comme ça que je procédais chaque jour, c'était comme ça. Et je terminais tout le temps avec un message: attention, respectez les mesures barrières, le coronavirus est une réalité. Ce n'est pas un complot comme certains le pensent, parce que moi je pense que si c'était un complot, on aurait des voix discordantes entre les Russes, les Américains, les Chinois et les Européens. Mais là, tout le monde est d'accord, même Vladimir Poutine, que c'est une maladie qui est réelle. Donc c'était ça. Et en même temps, sur Facebook également, c'est ce que je faisais. Chaque jour, je faisais des posts, le bilan de la journée, et puis j'expliquais un peu les mesures barrières, comment faire pour respecter, pour éviter de choper le virus. C'est le genre de truc que je faisais un peu et qui m'a valu justement beaucoup de félicitations. Et c'est à partir de là même qu'il y a une chaîne de télévision qui a invité les responsables de notre village sur un plateau en pleine crise de la première vague pour justement magnifier la démarche, parce que nous étions les seuls à l'avoir initié pour la sensibilisation. On n'a pas attendu que l'État dégage les aides pour les populations pour le faire. Nous, on avait déjà pris les devants.
Alors, votre initiative a donc porté du fruit. Quels conseils pouvez-vous donner à d'autres personnes concernant la sensibilisation, puisque ce n'est pas seulement une affaire d'État, comme vous vous en êtes rendu compte?
Effectivement, effectivement. En fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est juste que les gens reviennent à la raison. Ceux qui pensent toujours que c'est le fruit d'un complot, qu'ils sachent qu'il y a des millions de morts à travers le monde. Au Sénégal, où je me trouve aujourd'hui, ces derniers jours, le bilan le plus lourd de pertes en vies humaines a été enregistré ce mercredi avec 29 décès, ce qui n'a jamais été le cas avant. Donc maintenant, il faut que les gens, même si je pense ils n'y croient pas, mais au moins par respect pour les victimes, par respect pour ceux qui se battent aujourd'hui pour leur survie, au moins qu'ils s'abstiennent de tenir certains discours. Malheureusement, certains sont en train de gagner parce qu'ils ont semé le doute dans l'esprit des gens. Mais je continuerai toujours le combat. C'est d'ailleurs la raison du poste que j'ai fait. C'était pas pour montrer aux gens que moi j'étais malade, mais c'est justement pour dire, écoutez, prenez vos responsabilités. Vous êtes d'abord le premier rempart contre cette maladie, alors essayez au minimum de respecter ce que le médecin demande, parce qu'ils sacrifient leur vie de famille, ils sacrifient, même ils le font au prix de leur vie. Donc la seule façon de leur rendre hommage, c'est justement d'essayer de les aider dans leur travail. Mais le problème aussi qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de communication, parce que au niveau des autorités, ça tergiverse beaucoup. Par exemple, au Sénégal, on a vu le ministre, par exemple, de la Justice, qui a chopé le virus et qui se permet de faire un post pour dire « Écoutez, j'ai chopé le virus malgré le vaccin que j'ai pris ». Pour moi, ça, c'est une erreur de communication à éviter, surtout quand on est une autorité.
Sinon, les gens sont déjà réticents à l'idée de se faire vacciner. Donc, qu'est-ce que ça va donner?
Est-ce que c'est facile? En fait, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont encore réticents. Mais depuis que la troisième vague a commencé et continue à faire des ravages, les médecins maintenant sortent et ils disent la vérité aux populations. Attention, attention. Là, nous sommes en train d'atteindre un seuil critique. Aujourd'hui, le discours des médecins est qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Donc, à partir de là, les gens maintenant commencent à se ruer vers les centres de vaccination. Donc là, il a fallu qu'il y ait cette troisième vague pour que les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe véritablement. Donc moi, je pense que si ça continue avec une bonne communication des autorités, ça va peut-être changer un peu les mentalités.
Ah, d'accord, merci.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et vous-même, lorsque les médecins vous ont affirmé que c'était finalement le COVID, vous ont-ils mis sous un autre traitement?
Non, pas du tout. C'est le même traitement qu'on m'a demandé de poursuivre. Et j'ai poursuivi le traitement parce que c'est un protocole qui est là. Et voilà, et vous le poursuivez et au bout de quelques jours, ça va. Et ce qui m'a un peu choqué, excusez-moi de vous parler de ça, c'est que lorsque j'ai fait mon poste, quand j'ai lu certaines réactions, ça m'a fait un peu rire. Rigoler parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que choper le coronavirus, c'est déjà être condamné. Mais non, moi j'ai chopé le coronavirus, c'est vrai que j'ai souffert, j'en ai bavé, mais j'ai pas eu de complications. C'est pas parce qu'on a chopé le virus que forcément, voilà, ma maman, elle m'a appelé, moi je voulais même pas la mettre au courant, mais mon papa lui en a parlé, et puis le lendemain, elle m'a appelé, elle était un peu paniquée, tout. J'ai dit, mais maman, écoutez, ça va. Ça va, je suis à la maison, je mange et puis c'est tout. C'est tout. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et l'essentiel est que dès qu'on commence à sentir les premiers symptômes, si on s'y prend très tôt avec un bon traitement qu'on suit normalement, je pense que ça peut aller. C'est juste la remarque que je voulais faire sur cette question.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Il y a plusieurs personnes qui sont encore réticentes, en Afrique notamment, parce que nous avons un auditeur, mais il n'a pas laissé son nom, c'est un auditeur anonyme qui a dit que la véritable pandémie n'est pas celle qu'on croit. Le danger en réalité, c'est la multiplication sur grande échelle des cerveaux lessivés par la propagande sanitaire. Cet aveuglement des masses est infiniment plus inquiétant que le virus lui-même.
Ouais, c'est bien dommage, c'est un peu à nuancer. Je sais pas de quel côté il est. Est-ce qu'il est du côté des théoriciens du complot? Mais je pense que s'il est encore réticent et pense que ça, c'est une conspiration, alors le message que je voudrais lui lancer, c'est qu'il se trompe lourdement. Le coronavirus est une réalité. Moi, j'ai vécu cette réalité, donc je suis très bien placé aujourd'hui pour en parler. Et il y a des gens qui ont perdu leur vie. Ça, c'est pas du cinéma.
Okay. Mais il y a aussi cette lourdeur hein, que vous avez évoquée dans le système avant d'avoir vos résultats. Là, c'est pas un problème que la population peut résoudre. Il s'agit donc d'une affaire des autorités publiques. Quel appel lancez-vous vis-à-vis des pouvoirs publics?
Exactement. L'appel que je voudrais lancer aujourd'hui au pouvoir public, c'est justement de généraliser les tests de dépistage rapide. S'ils ne le font pas, voilà, la maladie va continuer à se propager. Et ce qui est un peu, marrant, c'est que lorsque je suis retourné pour faire mon test de contrôle, je l'ai fait mardi. Alors, on m'a encore renvoyé. Ce n'est que le mardi d'après que j'ai finalement pu recevoir les résultats. Et les résultats, ce n'est pas les résultats du test, mais c'est sur place qu'on m'a fait un test rapide pour me dire que vous êtes négatif. Donc je pense qu'il faudra qu'il fasse le maximum pour généraliser justement ces tests de dépistage rapide.
Mais finalement, vous n'avez jamais reçu les résultats du premier test?
Non, si j'ai reçu les résultats du premier test, c'est ce que je disais, c'est juste en allant, après avoir été voir le médecin sur place, que finalement, il a sorti mon nom de l'ordi pour me dire, mais écoutez, monsieur, vous êtes positif. Donc, à partir de là, j'étais choqué, là, mais je perdais mes mots. Et puis, je suis sorti sans rien dire, juste à part un merci, monsieur, il me demandait de poursuivre mon traitement.
Merci beaucoup. Alors, de
donc, mais c'est le résultat, par contre, du test de contrôle que je n'ai pas reçu jusqu'à maintenant. C'est le second.
Le second pour confirmer que vous êtes guéri.
Oui, là je suis guéri. Mais je continue quand même le traitement. Il me reste des sachets de zinc, vitamines à prendre parce que même quand on est déclaré guéri, on traîne quand même quelques petites séquelles pendant un bon bout de temps. Mais pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Je rends grâce à Dieu, alhamdoulilah, comme on dit chez nous.
Pendant combien de temps le traitement a-t-il duré?
Le traitement, il a duré. Le traitement continue, mais pour les médicaments essentiels, c'est disons 6 jours. Donc, l'agicure. J'ai pris deux paquets de trois. Chaque jour, vous prenez un comprimé. Et pour le reste également, c'est au bout d'une semaine que, voilà, on repart pour faire notre test de diagnostic pour voir. Deux semaines. Parce que même les médecins, au niveau de leur communication, ils vous demandent de respecter le traitement pendant au moins 2 semaines.
Mm-hmm. Pensez-vous que le traitement du coronavirus est à la portée de tout le monde au Sénégal?
Non, ça il faut le dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Parce que moi, la première ordonnance qu'on m'a remise, ça m'a coûté 31 000 et poussière. Et ça, c'est le salaire de certains Sénégalais, il faut le dire.
Donc il n'y a pas un système d'assistance aux malades du Covid?
Non. Non. C'est vous-même, vous venez pour rencontrer un médecin, c'est vous-même qui payez votre ticket de consultation. Après, on vous prescrit une ordonnance, c'est vous-même qui prenez en charge cette ordonnance. Par contre, pour ceux qui sont dans les cas critiques, ceux qui sont hospitalisés, c'est l'État qui prend en charge le traitement. Sauf s'il y a d'autres médicaments qui ne font pas partie du protocole. Là, en ce moment, peut-être le malade va aller chercher lui-même. Maintenant, même pour l'oxygène qui posait problème, l'État a maintenant pris sur lui la charge du ravitaillement en oxygène des malades qui se trouvent maintenant dans les CPE, qui sont les centres de traitement épidémiologique. Donc voilà, mais pour le reste, c'est à la charge du malade.
Et qu'en est-il du test? Le malade doit aussi payer ou bien le test est au moins gratuit?
Non, le test, Le test, il est gratuit dans les structures publiques. Il est gratuit, mais avec le problème que j'ai expliqué tout à l'heure, de devoir attendre peut-être une semaine, 10 jours avant d'avoir les résultats. Donc, si vous voulez, les médecins voient que peut-être que votre cas est un peu critique, ils vous font le test sur place. Mais pour avoir réellement le test et puis avoir les résultats maintenant, vous êtes obligé d'aller dans une clinique où vous payez 20 000, voire 25 000 pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Donc c'est ça un peu le mauvais côté de ces tests de dépistage gratuits au niveau des structures sanitaires publiques.
Bien, parce que soit vous attendez pendant des jours et vous restez dans l'incertitude, soit vous allez débourser 25 000
tout à fait.
Qui correspondent au salaire de quelques personnes pour avoir le test rapide.
Tout à fait. Donc vraiment, il faudra qu'on essaie un peu de démocratiser et d'ouvrir un peu, entre guillemets, les vannes pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'un traitement au moins digne contre cette maladie, parce que ma foi, beaucoup de gens peut-être sont en train de perdre la vie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les médicaments ou d'une prise en charge à l'hôpital.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pendant cette maladie, de quel soutien avez-vous bénéficié de la part de votre famille?
Alors, le soutien, c'est surtout un soutien moral. C'est à chaque fois, je vivais seul, mais à chaque fois, je recevais des coups de fil du village, la maman, le papa, de l'autre côté de mon épouse, rien que ça. Et puis j'ai une sœur qui avait déjà chopé la maladie et puis qui était sous oxygène, qu'on avait même peur pour sa vie. Et tout le temps, elle me donnait des conseils, voilà, il faut respecter ceci, il faut respecter cela, il faut surtout boire beaucoup d'eau, il faut éviter de faire beaucoup d'efforts. C'est ce genre de soutien qui vous permet un peu de surmonter cette maladie. Peut-être en tant que journaliste, j'ai toujours été en contact de l'information. Je savais que avoir le coronavirus ne signifie pas forcément que je suis condamné. Et puis, qui plus est, je suis un sportif. La première fois, quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit côté respiration, ça va. C'est peut-être votre chance, c'est que vous êtes jeune et puis vous êtes sportif. Donc ça peut vraiment beaucoup aider. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps. Même sans le coronavirus, il faudrait que chez nous, les Africains, les vieux, les jeunes, qu'on ait l'habitude de faire du sport, c'est bien pour la santé.
Avez-vous pu prendre votre vaccin?
Oui, j'ai pris ma première dose il y a 3 semaines et c'est ce mercredi même que j'ai pris ma deuxième dose. Et pour vous dire, la veille, j'ai écouté des gens, j'ai un ami qui, pour lui, les gens sont en train de conspirer dans le dos des populations qu'il faut pas prendre ce vaccin. Mais moi, je me suis dit, si je dois servir même de cobaye, je suis prêt à le faire. Si ça peut permettre de sauver l'humanité, alors je suis partant.
Ok, merci beaucoup. Alors, pour terminer notre interview, notre émission, est-ce que vous avez un message spécial à l'égard de toutes les personnes qui vous écoutent?
Le conseil que je voudrais donner justement à ces gens qui nous écoutent, c'est qu'ils sachent déjà que le coronavirus est une réalité. Ça fait des ravages, comme je l'ai dit tantôt. C'est pas du cinéma, ce n'est pas un complot. Et puis c'est parole d'un covidé, entre guillemets, comme j'ai dit, quelqu'un qui a déjà chopé le virus. Donc essayons un peu de respecter les mesures barrières. Essayons de respecter les consignes des médecins pour nous sauver nous-mêmes et sauver d'autres vies. Parce que même si nous sommes porteurs sains, nous sommes peut-être en train de propager la maladie. On entend un peu les témoignages des médecins. On voit des enfants de rien du tout, des jeunes mourir de cette maladie. Donc qu'on fasse le maximum justement pour essayer un peu de préserver notre santé et la santé des autres.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nos auditeurs. Nous espérons qu'elle servira de leçon à beaucoup de personnes qui traversent certainement les moments pareils aux vôtres.
C'est tout ce que j'espère, madame. Merci beaucoup.
Vous venez là de suivre notre entretien avec M. Wahani Johnson-Sambou. Nous sommes aussi arrivés à la fin de ce nouveau rendez-vous santé qui était consacré à l'expérience d'un malade guéri de COVID-19. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanite Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.